Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 24 juin 2026. On se retrouve donc avec des marchés qui s'agitent un petit peu plus et on part avec le VIX qui rebondit de 12-13%, qui repasse ou qui vient titiller du moins la zone des 20 points avec une zone donc de démarcation où en général ça a tendance à accélérer un petit peu quand on franchit ces 18 à 20 points. On a les oscillateurs qui sont en train également de nous annoncer peut-être un mouvement un peu plus important et le tout qui est corrélé à court terme avec un dollar qui a bel et bien break après un très très long travail ici, ça aura pris du temps, on a mêché encore en janvier 2026 sous les 96 points pour le dollar américain, le DXY qui est face à un panier d'autres devises majoritairement composé de l'euro et on a cet indice qui est aujourd'hui autour de 101.5, 101.48 pour être précis et qui se dirige tout droit vers sa médiane de range où nous attend la moyenne mobile 200, c'est-à-dire proche des 103 points. Ceci a pour effet de mettre sous pression indirectement le S&P 500 et le Nasdaq qui pour le S&P recule de 1,44 avec toujours cet objectif technique de revenir chercher la zone précédente de sortie autour de 7000 points et la moyenne mobile à 20 semaines qui remonte autour de 7066 points. On a le Nasdaq pareil qui est finalement un peu un x2 de ce qu'on peut observer en termes de volatilité par rapport au S&P qui lui pourrait revenir dans un premier temps autour de la zone des 27700, 27400. On a la moyenne mobile 20 à 26 900 et la zone de sortie autour de 26 000. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a la moyenne mobile 50 qui est en train de remonter également par en dessous. Donc si on revenait travailler à un moment donné autour des 26 000, ça laisse le temps à la moyenne mobile 50 d'offrir un support dynamique supplémentaire. Côté Europe, on marque le pas également avec l'Eurostoxx 50 qui recule de 1,41. Le DAX qui a été puni et notamment par cette information qui était sortie de Volkswagen qui licencierait 50 000 personnes d'ici à 2030, donc une industrie qui, du côté de l'automobile, a fait les lettres de noblesse pendant des décennies de l'industrie allemande et qui aujourd'hui marque là aussi le pas. Mais ça n'est pas tout, puisqu'on le verra également au niveau du CAC 40 dans un instant, que le luxe finalement n'a pas réussi à percer. Alors j'avais commencé à payer très timidement LVMH, Hermès, etc. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne passe pas. On va voir ça dans un instant. Le CW8 et le WPEA également qui reculent légèrement 0,86 avec donc ici peut-être une divergence entre les deux tops et le RSI qui est en train petit à petit de nous faire le dos rond pareillement au niveau des oscillateurs de type MACD. Donc je pense que l'été quelque part va jouer exactement ce qui se passe en règle générale les autres étés et notamment les étés où en tout cas pour la bourse traditionnelle on a eu un printemps très porteur, c'est-à-dire une digestion de tout ce qui s'est passé précédemment et potentiellement une correction. On va pas parler de grande correction, mais une correction qui pourrait prendre justement toute cette période estivale. Le gold qui continue de dégraisser, donc on est sur un Fibo important 0,38,2 autour de 4085. Le cours se trouve à 4069 ce matin, petit support intermédiaire à 3009 et ensuite on descend à 3006. On va voir là aussi comment va se comporter le gold, mais on a une belle phase de distribution. Contrairement à ce qu'on a observé à l'instant du côté des oscillateurs précédents, donc sur les indices de TradFi, le gold lui est plutôt en phase finale où certes ça déroule pas mal à la baisse mais on est déjà très bas par rapport à ces oscillateurs, donc la correction c'est un petit peu comme ce qu'on essaie de jauger finalement du côté du marché crypto et plutôt entre 50 et 70% déjà réalisé du côté du gold plutôt qu'au début de celle-ci. Ceci étant, ne minimisons pas vu l'envolée fulgurante et la spéculation débridée qu'il y a eu sur les métaux précieux, jusqu'où pourrait redescendre le cours hein, par rapport à une poussée entre mars 2024 à 2000 et quelques dollars et on est venu chercher du 5600. C'était quelque chose qu'on voit très peu souvent sur le gold. Il y a une correction au prorata de ce qui a été délivré. Derrière, il y aura forcément un moment où il y aura un rebond qui sera opportun à jouer et peut-être justement que ça va se mettre en place au cours de cet été si on venait à avoir une correction multimarché. Les stablecoins du côté du marché crypto continuent d'être relativement hauts sur le ratio 0,12. On n'est pas venu chercher les 0,17 que composait l'ancien point bas donc de bear market en juin 2022. C'est le miroir inversé du crypto total qui joue dangereusement à se faire peur puisqu'on est sous la moyenne mobile 200. La semaine dernière, la clôture n'était pas fameuse et là, on risque de clôturer vraiment bien en dessous. Donc, si on perd les 2080 milliards ou les 2000, voilà, pour faire des comptes ronds, où on a eu à deux reprises le marché qui a défendu, là, on va rentrer dans une capitulation un peu plus importante. Beaucoup plus de bitcoins qui seront sous l'eau et c'est exactement ce que je vous disais dans la dernière émission. Ça se retranscrira du côté de bitcoin par des bougies beaucoup plus impulsives, de type un petit peu celle qu'on a eue sur ce début juin ici, ou les trois semaines où on était passé entre janvier 2026 et ici début février de 93 000 dollars à 60 000 déjà. Donc je dis pas qu'on va perdre comme ça 30 000 en ligne droite, mais ne serait-ce qu'une bougie en intraday ou voire sur une semaine roulante, c'est-à-dire 2-3 jours à peu près, qui nous ferait moins de 10 000 dollars pour faire 60 à 50, ça déjà, ça déclenche une véritable capitulation et psychologique et des gens qui pensaient que voilà, on n'irait pas en dessous de 60 000, qui se font des grands plans sans prendre en considération que les marchés sont par nature instables et que la plupart du temps, notamment lors du bear market crypto, ça a tendance à nous surprendre. Et malheureusement pour nous, pas dans le bon sens du terme. Alors aujourd'hui, là aussi, comme on l'a décrit plusieurs fois, d'un point de vue technique, oui, on a une divergence, oui, on a le travail autour de la moyenne mobile 200. Oui, si on veut commencer un DCA, voire même un DCA agressif pour certains, c'est sûr que c'est une zone qui, historiquement, autour de la moyenne mobile 200 et quand les oscillateurs se sont complètement reset, est loin d'être déconnante. La question est... est-ce qu'on tient les 60 000? Est-ce qu'on passe l'été en faisant un petit peu le yo-yo entre 60 et 65, voire 60 et 70, pourquoi pas? Ou bien on se fait la petite frayeur finale qui, par essence, a tendance à se répéter à chaque fin de cycle de 4 ans autour de l'automne. Donc on laisse passer cet été et cet automne, on a enfin notre point bas. Pour ceux qui sont un petit peu joueurs, on aura le point bas, je suppose, avant la sortie de GTA 6, qui est le 19 novembre 2026. Donc peu importe comment on tourne la chose, on est plus proche de la fin que du début de cette grande correction du cycle de 4 ans du BTC. Si tant est qu'il joue toujours, si tant est que 2027, on ne rentre pas dans une grande dépression du côté des États-Unis, je le dis en plaisantant bien entendu, mais voilà, ne serait-ce qu'un moins 10 à moins 20% côté TradFi, je pense que ça aurait quand même des conséquences assez néfastes à court terme du côté du marché crypto. Et pour le marché crypto en particulier, puisque voilà, en même temps que je vous en parle, je déroule aussi un peu les news qui sont liées au domaine et à l'écosystème. On a la Commission européenne qui a voté hier, pas à l'unanimité, mais c'était un bon 3/4, 80% qui ont voté en faveur de l'euro numérique. Donc a priori, ça va bien être déployé et arriver jusqu'à son développement terminal. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner ça par rapport à l'Europe et ça semble être un gouffre financier. Vous avez un excellent article long de Grégory Raymond sur X qui est disponible en clair, donc n'hésitez pas à aller consulter son post. Il y a également du côté des États-Unis l'inverse, puisqu'il s'oppose, c'est un ban pur et simple pour l'instant, en tout cas sous l'administration Trump, à une monnaie comme ça qui se substituerait à un dollar numérique. Donc à quelques jours, quelques semaines du Clarity acte en juillet qui devrait être entériné pour fixer définitivement les règles, mais personne n'est d'accord sur les termes, pourquoi, comment, ce qui repousserait l'échéance plutôt à l'été automne 2027 si je dis pas de bêtises. J'ai peur que là, si le Clarity Act en particulier ne passe pas maintenant pour le marché crypto, ça permette justement de dérouler la fameuse bougie impulsive de moins de 10 000 du côté de Bitcoin, voire plus, et du coup, voilà, déclencher véritablement la capitulation derrière. Il faudra observer également comment se comporte Strategy, Michael Saylor, etc. On a plus un double problème qui est lié déjà aux flux qui sont totalement dirigés et cloisonnés en économie circulaire du côté de l'IA, et data center, cloud, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, et tout ce qui va être énergétique, puisque je pense qu'aujourd'hui, la consommation finalement de ce qu'on reprochait au Bitcoin, de consommer de l'énergie pour être miné, j'aimerais bien voir à l'année combien consomment aujourd'hui les data centers liés à l'IA, au cloud et tout ce qui va bien, ça doit être faramineux pour le coup. Donc nous sommes totalement dans cette transition où d'un point de vue réglementaire, on a posé des bases qui sont des bases strictes, qui peinent encore un petit peu parfois à trouver leur chemin, et puisque derrière il y a un lobby bancaire qui est très puissant et qui rame à contresens pour faire en sorte justement que le marché crypto reste un petit peu là où il est et qu'il ne prenne pas trop de place non plus dans cet océan de finances mondiales qui aujourd'hui eh bien continue de dicter ses propres règles. Donc c'est vrai que c'est difficile de se dire aujourd'hui de jauger le pour, le contre. Est-ce qu'on va continuer de galérer pendant X années. Est-ce que également, si on se projette à 2028, on va pas, si c'est un camp différent qui passe du côté des États-Unis, payer les conséquences de ce qu'aura fait cette administration en termes de crypto, en termes de manigance quelque part, si je puis dire, du côté de ses propres projets, de ses mêmes coins et de tout ce qui s'est passé. Voilà, c'est beaucoup de choses que j'essaie de mon côté de prendre en considération de si ça venait pas à super bien se passer sur les prochaines années, tout simplement, ou qu'on avait une volatilité bien moindre que celle à laquelle on a été habitué du côté du marché crypto. Je vous dis une connerie au pif. Par exemple, on a notre bottom à 50 000 cette année, 2026, et 2027-2028, on arrive à peine à raccrocher 80-100 000 du côté de Bitcoin. C'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre du possible. Donc soyons prudents, essayons de prendre les choses comme elles viennent. Ne soyons pas pour autant défaitistes. Je ne le suis pas du côté des cryptos, du côté de Bitcoin, voire même du côté de Ether, sur lequel voilà, on transpire depuis très longtemps, mais on continue de garder des espoirs, tout en nous ne mettant pas des œillères, bien entendu, sur le fait que le marché crypto aujourd'hui est un petit peu boudé. C'est le bon moment pour ceux qui veulent se positionner sur Bitcoin, bien entendu, et comme d'habitude, sur une fenêtre de tir suffisamment élargie pour absorber s'il y a des variations comme ça importantes de cours, bien entendu. Et du côté de Ethereum, eh bien, ceux qui ont abandonné totalement le navire, voilà, se posent beaucoup de questions. La Ethereum Foundation, d'un point de vue des news, a balancé hier qu'ils allaient licencier un bon nombre de leur effectif. Ça reste un bear market qui est dans les clous de ce qui s'est passé précédemment. Alors on n'a pas un FTX qui est sorti du chapeau, on n'a pas un Terra Luna avec UST qui pulvérise tous les portefeuilles sur son passage et voilà, et encore heureux vu la descente qu'on s'est déjà prise ici sur Ethereum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, quand on voit le reste briller, quand on voit les Micron qui font des milliers de pourcents, les SKINIX et tout ce qui va bien, bien que là aussi on commence à avoir un peu plus de nervosité, même sur les gros titres et des corrections qui pourraient là aussi venir à terme du côté de l'industrie des semi-conducteurs. Ceci étant dit, tant que l'IA en aura besoin et continueront d'investir comme des tarés et qu'on aura des CAPEX sur les entreprises qui continuent de pousser, normalement, voilà, dans les prochaines années, ça restera des dossiers qui sont solides. Mais aujourd'hui, payer par exemple un dossier comme Micron où on n'a jamais eu d'histoire de bourse un RSI mensuel aussi haut, je crois que c'était 99,4 ou un truc comme ça, jamais personne n'a vu ça, des fusées qui ne s'arrêtent jamais. Il y aura forcément le jour où il y a une redescente, des corrections qui seront à la hauteur de ce qui s'est passé précédemment, un petit peu comme ce qu'on a pu observer sur le marché crypto par le passé. Donc comme d'hab, voilà, rien ne sert de courir après ce genre de train ou de fusée. Il faut savoir les payer quand elles reviennent à nous par gravité justement autour des moyennes mobiles long terme. Côté stratégie, etc., minière, Coinbase autour de 158 $, moins 4%, MicroStrategy en bas de sa box, 103-104 $, on revient aux 100 $. Par contre, là, si on perd cette box, ça risque, voilà, de faire très très mal par la suite pour MicroStrategy. Donc, ça sera totalement dépendant de ce qui se passe sur Bitcoin. Si BTC reste à 60, MicroStrategy reste à 100. Si BTC va à 50, on aura MSTR beaucoup beaucoup plus bas. Donc, à suivre pour la suite. On avait Riot qui continuait d'essayer de se hisser un petit peu vers le haut, 0,21. Alt BG qui, pareil, est très très dégradé. Alors là, le titre qu'on peut acheter sur PEA français était quand même passé entre novembre 2023 de 0,08 euros à juin 2025, 6 euros, donc ça faisait 7150%. On a la descente qui est à la hauteur de ce qui s'est passé. C'est un titre, je ne sais même pas si c'est très liquide ou quoi, puisque c'est proposé directement sur le PEA à moins 93%. Là aussi, c'est très difficile de se positionner sur un truc comme ça. À la rigueur, s'il revenait à son prix d'origine autour de 0,10 centimes, pourquoi pas, puisque le ratio risque-récompense serait finalement assez favorable. Mais aujourd'hui, ça reste des actions sur lesquelles, quand on se positionne comme ça, pareil, plutôt que d'avoir du Bitcoin, si on souhaite avoir avoir un ETF BTC ou quelque chose dans ces eaux-là, ça rajoute un risque finalement à déjà un actif qui est risqué lui-même et très volatile BTC. Donc quand vous constituez vos allocations en portefeuille, certes, on l'a vu au cycle précédent, ça peut faire des envolées complètement folles, mais avec un risque de ruine en face qui est immensément plus important qu'une action lambda ou qu'une action déjà bien capitalisée comme Nvidia aujourd'hui, qui certes, le jour où elle corrigera, on l'a déjà vu en 2022, peut perdre 20, 30, 40, 50% du côté de Nvidia. Mais théoriquement, si les sirènes qu'on nous vend aujourd'hui du côté de l'IA et d'un futur radieux se passent bien, à un horizon de temps de 10 ans, il y a moins de risques que vous soyez ruiné du côté de Nvidia que par exemple sur Capital B aujourd'hui. Du côté des actions, et notamment américaines, sur le NYSE, on a Novo Nordisk qui continue d'essayer de nous faire son bottom ici. C'est plutôt propre, on apprécie. Donc au contact des 47$, si on passe la MM50 à 49, on accélérera jusqu'à 60 dans un premier temps. Microsoft sous sa moyenne mobile 200 avec un PE qui est pas dégueulasse pour du long terme, donc autour de 373, on apprécierait la revoir à 345-350, je sais pas si on les reobtiendra puisque le marché bien entendu essaie de s'accrocher à sa MM200. Take-Two qui ralentit à l'approche donc de son ATH qui se trouve aujourd'hui à 264-265 $, on est à 242. Attention toutefois, je vois des personnes hyper spéculer sur le titre du côté des réseaux sociaux. Le positionnement, il était à l'annonce de GTA 6, c'est-à-dire en mai 2023. On est passé de 121 à 260$. Donc faites attention à vous aujourd'hui en rentrant autour de 240. Certes, on peut rentrer en découverte de prix s'ils en vendaient plus que ce qu'ils pensent tout simplement ou que vraiment il y a un très gros engouement. Mais ils ont aussi l'historique où finalement le marché arrive plutôt pas mal à jauger des revenus qu'ils vont avoir, que ça soit directement lié au jeu ou annexe en merchandising, etc. Et aujourd'hui, je pense que c'est totalement pricé ici dans le cours. En tout cas, les espérances par rapport à cette sortie, il faudrait derrière dépasser très largement ces espérances pour voir le cours se réapprécier considérablement à la hausse. Donc faites attention par rapport à tout ça. Amazon au contact de la moyenne mobile 20 et 50, donc peut-être là aussi pour un DCA pour du long terme, c'est mieux que de le payer quand on est sur des nouveaux points hauts. On va voir comment ça se comportera sur cette petite zone de polarité. Si jamais ça lâche MM100 à $216, et ensuite on a le gros bloc de la moyenne mobile 200 et du support entre $176 et $190 pour Amazon. Netflix qui est pas très loin de revenir au contact de la MM200, je vais continuer de l'acheter comme je vous l'avais dit précédemment. Donc une belle zone d'opportunité très certainement autour de $70. On a le 0,618 ensuite autour de $60 et à voir donc en termes de revenus également si Netflix n'est pas puni par rapport à la direction qu'ils avaient souhaité prendre à un moment. J'ai même pas vérifié puisque c'est un peu une arlésienne s'ils avaient totalement verrouillé le deal avec la Warner Bros. Il y avait un autre acteur qui était rentré, je crois que c'était la Paramount qui avait proposé une offre beaucoup plus importante. Finalement derrière on était revenu à Netflix, il y avait des tractations, des négociations, donc je vous avouerai que j'ai plus suivi au bout d'un moment le feuilleton, mais ça fait quelque temps que Netflix est bien puni ici, donc c'est un dossier qu'on va continuer de suivre, notamment puisque petit à petit on est déjà sur une correction des plus marquées depuis les $134, on arrive doucement mais sûrement pas très loin des moins 50%, donc c'est encore loin de ce qui s'était passé en 2022 où on avait reculé de moins 76% pour Netflix, mais voilà, si c'est des actions qui ont tendance à corriger relativement fort, derrière on voit aussi que quand ça repousse à la hausse, ça reste des actions et des titres qui ont pas un monopole aujourd'hui pour Netflix, mais détiennent quand même quelque chose d'assez précieux d'un point de vue concurrentiel. Faut juste après rentrer un petit peu dans les chiffres, dans les résultats et dans tout ce qui s'ensuit, dans comment ils anticipent l'avenir pour finir de verrouiller totalement les zones clés d'un point de vue technique. Ce qui permet finalement d'aligner le fondamental avec la simple action de prix. Et quand on arrive à aligner les deux, en général, on s'en tire plutôt pas mal. On a enfin une correction un peu plus marquée pour ASML. Pareil, j'ai pas suivi le dossier s'il y avait bel et bien eu du vol de propriété intellectuelle sur un matériel clé de ASML par la Chine, etc. On voit tellement de conneries passer du côté des réseaux sociaux au quotidien que je vous avouerai avouer qu'au bout d'un moment, pour détricoter le vrai du faux, ça devient un peu catastrophique. Toujours est-il, le titre recule de 8%, après là aussi une progression ces dernières années qui a été complètement folle, et ASML qui a un avantage concurrentiel, tant qu'on ne leur vole pas effectivement, qui est complètement fou sur le papier. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on se fait encore punir du côté du luxe, qui pourtant nous faisait quelque chose ici à deux reprises qui est loin d'être négligeable, autour de 445 à 450 euros pour LVMH. La MM50, 531 euros, a été vendue immédiatement. On refait le ping-pong, on revient à 483 euros. Et c'est pareil pour Hermès, à peine il a touché les 1780-1800 euros, on repart en dessous du support des 1650. C'est le retour à l'envoyeur, donc 1600 euros. Et pour l'instant, finalement, un secteur qui est boudé. Là aussi, il y a eu des news qui sont sorties avec des guidance pour le futur qui étaient plutôt pessimistes. La Chine qui revient toujours pas à l'achat. Donc l'Asie qui était très très friante, notamment à partir de 2020 autour du Covid, de tout le secteur du luxe français. Et c'est ce qui avait fait, par effet de bord, pumper énormément le secteur des montres de luxe jusqu'à 2022. Donc pour l'instant, eh bien, en tout cas, de ce que nous dit le cours ici, on n'arrive toujours pas à passer, malheureusement. Je m'attarde pas du côté des altes, puisque comme je vous disais, certes, ça donne envie d'ores et déjà de payer, mais si l'été jusqu'au début d'automne se passe tel qu'il doit se passer pour le marché crypto, on aura des prix beaucoup plus attractifs encore du côté des altcoins. Donc difficile de se positionner immédiatement. Après, il y en a bien entendu qui vont commencer à recharger, peu importe le prix, des trucs comme Hyperliquid. Je vois passer de temps en temps Solana, il y avait NIR, il y avait Link, il y a ceux qui croient encore à AAV, il y a le BNB qui est pas si moche également, que ça soit contre le dollar ou contre Bitcoin, il y avait Tao Bitensor. Mais quand on fait la somme finalement des altcoins qui potentiellement pourraient traverser ce bear market sans se faire pulvériser et donner quelque chose sur le cycle suivant, ça se compte basiquement sur les 5 doigts d'une main. On clôturera avec l'Asie et le Nikkei qui se reprend, le Japon 30 ans 1,15, puisque hier pour le Nikkei on avait quand même fait une petite bougie qui l'a fait passer de 73 678 à 68 400, donc c'était une bougie qui a fait un petit peu paniquer tout le monde de moins 7% à l'ouverture le lundi et mardi. Donc à voir ce que ça donnera côté Asie, puisque au niveau des actions, c'est toujours pas ragoûtant. On a Xiaomi qui a perdu la MM200 qui continue d'accélérer à la baisse. Il faut laisser le couteau se planter. Là, vraiment, c'était vertigineux pour le coup. On avait Nintendo qui est sur son support long terme à 6,86 sous la moyenne mobile 200, sous toutes les moyennes mobiles. Pareil, si ça perce, ça risque encore d'accélérer. C'est fou de voir des actions comme ça se laisser un petit peu mourir. Et on a quand même des grosses structures, même sur Tencent, j'ai vu également BYD, même si je ne l'ai pas dans ma liste ici, où ce n'était pas super ragoûtant à court terme. Alibaba, pareil, on est autour de 100 dollars, on est en train de perdre la moyenne mobile 200. Donc, est-ce que ce qui se passe côté Asie est précurseur de ce qui va se passer cet été du côté des États-Unis si on retire finalement cette poule aux œufs d'or de l'IA et des data centers, du cloud et de tout ce qui va bien? Il y a encore et toujours pas mal de questions en suspens et c'est pour ça que dans cet univers très incertain désormais que nous offrent les marchés, très vertueux aussi en un sens pour ceux qui étaient positionnés sur la tech ou qui tout simplement avaient des ETF indices et ont suivi ce mouvement un petit peu par effet corollaire, puisque quand on détient un S&P, quand on détient un Monde ou quand on détient encore mieux directement un Nasdaq, on a bénéficié de tout ça sans avoir à faire du stock picking. Donc aujourd'hui la question est-ce que ça peut perdurer? Est-ce que cet été on gomme un petit peu les excès, ce qui serait très bien pour avoir un automne slash début 2027 positif, ou alors on laisse un petit peu traîner les choses, au risque en effet d'avoir la punition qui viendrait peut-être de décisions comme la Fed, où on se pressent qu'elle pourrait monter les taux deux fois peut-être sur ce second semestre 2026, et ça si les marchés l'ont pas encore encapé et qu'ils restent dans leur euphorie légendaire jusqu'à ce que la musique s'arrête tout net, ça pourrait faire un petit peu plus mal, donc on va surveiller ça, on continuera de faire nos points hebdomadaires ou bi-hebdomadaire, et ensuite bien le but pour nous tout simplement sur les marchés, c'est d'être alerte, de continuer de survivre au long terme, de déployer le capital quand il se doit, quand il y a de belles corrections un peu plus marquées, et ensuite normalement un horizon de temps de quelques années voire 5-10 ans, puisque les marchés financiers ont tendance à avoir des temps longs malgré tout, et bien en général ça se passe plutôt pas mal pour ceux qui ont à la fois appliqué un plan bête et méchant et ont réussi à tenir sur la durée, sur la longueur, puisque la plupart du temps, les erreurs, on les fait sur du court terme, sur de l'émotionnel, sur de la prise de décision qui est irréfléchie et irrationnelle. Et c'est ce qui finalement gangrène totalement un investissement sur une dizaine, une vingtaine d'années, alors que finalement, il n'y avait que très très peu de choses à faire. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve samedi pour le récap de l'actu financière de cette semaine. Très bonne journée et pensez à vous hydrater. Ciao, ciao.